L'état impossible. Pauvre, joyeux et indépendant. Ces qualités se trouvent réunies chez une seule personne. Pauvre, joyeux et esclave, cela se trouve aussi, et je ne saurais rien de mieux à dire aux ouvriers de l'esclavage des fabriques. En admettant que cela ne leur apparaisse pas en général comme une honte d'être utilisés, ainsi que cela arrive comme la vis d'une machine et en quelque sorte comme bouche-trou de l'esprit inventif des hommes. Fi de croire que, par un salaire plus élevé, ce qu'il y a d'essentiel dans leur misère, je veux dire leur asservissement impersonnel, pourrait être supprimé. Fi de se laisser convaincre que par une augmentation de cette impersonnalité, au milieu des rouages de machines d'une nouvelle société, la honte de l'esclavage pourrait être transformée en vertu. Fi d'avoir un prix pour lequel on cesse d'être une personne pour devenir une vice. Êtes-vous complice de la folie actuelle des nations, ces nations qui veulent avant tout produire beaucoup et être aussi riches que possible? C'est à vous de leur présenter un autre décompte, de leur montrer quelles grandes sommes de valeur inférieure sont gaspillées pour un tel but extérieur. Mais où est votre valeur inférieure si vous ne savez plus ce que c'est que respirer librement? Si vous savez à peine suffisamment vous posséder vous-même? Si vous êtes trop souvent fatigué de vous-même comme d'une boisson qui a perdu sa fraîcheur? Si vous prêtez l'oreille à la voix des journaux et regardez de travers votre voisin riche, dévoré d'envie en voyant la montée et la chute rapide du pouvoir, de l'argent et des opinions? Si vous n'avez plus foi en la philosophie qui va en haillons, en la liberté d'esprit de celui qui est dépourvu de besoins? Si la pauvreté volontaire et idyllique, le manque de profession et le célibat, dès qu'ils devraient convenir parfaitement aux plus intellectuels d'entre vous, sont devenus pour vous un objet de risée. Par contre, le fifre socialiste des attrapeurs de rats vous résonne toujours à l'oreille. Ces attrapeurs de rats qui veulent vous enflammer d'espoir absurde, qui vous disent être prêts et rien de plus, prêts d'aujourd'hui à demain, en sorte que vous attendez quelque chose du dehors, que vous attendez sans cesse, vivant pour le reste comme d'habitude. Jusqu'à ce que cette attente se change en faim et en soif, en fièvre et en folie, et que se lève enfin, dans toute sa splendeur, le jour de la bête triomphante. Au contraire, chacun devrait penser à part soi, plutôt émigrer pour chercher à devenir maître dans des contrées du monde sauvage et nouvelle, et, avant tout, pour devenir maître de moi-même. Changer de lieu de résidence tant qu'il restera pour moi une menace quelconque d'esclavage. Ne pas éviter l'aventure et la guerre, et, pour les pires hasards, me tenir prêt à la mort. Pourvu que cette inconvenante servilité ne se prolonge pas. Pourvu que cesse cette tendance à s'aigrir, à devenir venimeux, conspirateur. Voici quel serait le véritable sentiment. Les travailleurs en Europe devraient dorénavant se considérer comme une véritable impossibilité en tant que classe, et non pas comme quelque chose de durement conditionné et d'improprement organisé. Ils devraient amener un âge de grand essaimage hors de la ruche européenne, tel que l'on n'en a pas encore vu jusqu'ici, et protester par cet acte de liberté d'établissement. Un acte de grand style contre la machine, le capital et l'alternative qui les menacent maintenant. Devoir être soit l'esclave de l'État, soit l'esclave d'un parti révolutionnaire. Que l'Europe s'allège du quart de ses habitants. Ce sera là un allègement pour elle et pour eux. Ce n'est que dans les entreprises lointaines des colons, qui émigreront en essaim, que l'on reconnaîtra combien de bon sens et d'équité, combien de saine méfiance la mère Europe a incorporée à ses fils. À ses fils qui ne pouvaient plus supporter de vivre à côté d'elle, la vieille femme hébétée, et qui courait le danger de devenir morose, irritable et jouisseur tout comme elle. En dehors de l'Europe, ce seraient les vertus de l'Europe qui voyageraient avec ses travailleurs et ce qui, sur la terre natale, commençait à dégénérer en un malaise dangereux et un penchant criminel, gagnerait au dehors un naturel sauvage et beau et s'appellerait héroïsme. C'est ainsi qu'un air plus pur reviendrait sur la vieille Europe maintenant trop peuplée et repliée sur elle-même. Qu'importe si l'on manque un peu de bras pour le travail? Peut-être se souviendra-t-on alors que l'on ne s'est habitué à beaucoup de besoins que depuis qu'il devint facile de les satisfaire. Il suffira de désapprendre quelques besoins. Peut-être aussi introduira-t-on alors des Chinois, et ceci amènerait la façon de vivre et de penser qui convient à des fourmis travailleuses. Il pourrait même, en somme, contribuer à infuser au sang de l'Europe turbulente et qui se consume un peu de calme et de contemplation asiatique et, ce qui certes est le plus nécessaire, d'endurance asiatique. Comment se comportent les Allemands vis-à-vis de la morale? Un Allemand est capable de grandes choses, mais il est peu probable qu'il les accomplisse, car elle obéit où il le peut, ainsi que cela convient aux esprits paresseux par essence. S'il est placé dans la situation périlleuse de demeurer seul et de secouer sa paresse, s'il ne lui est plus possible de se tapir comme un chiffre dans un nombre, en cette qualité il a infiniment moins de valeur qu'un Français ou un Anglais, il découvrira ses forces. Alors il devient dangereux, méchant, profond, audacieux, et il apporte à la lumière le trésor d'énergie latente qu'il porte en lui, un trésor auquel, par ailleurs, personne ne croit, ni lui ni un autre. Lorsque, dans un cas pareil, un Allemand s'obéit à lui-même, c'est la grande exception, il le fait avec la même lourdeur, la même inflexibilité, la même endurance qu'il met généralement à obéir à son souverain et à ses devoirs professionnels. Il est alors à la hauteur de grandes choses qui ne sont nullement en proportion avec la faiblesse de caractère qu'il se prête lui-même. En temps habituel, cependant, il craint de dépendre de lui tout seul, il craint d'improviser. C'est pourquoi l'Allemagne use tant de fonctionnaires, tant d'encre. La légèreté de caractère lui est étrangère. Il est trop craintif pour s'y abandonner. Mais dans les situations toutes nouvelles qui le tirent de sa torpeur, il est presque d'esprit frivole. Il jouit alors de la rareté de sa nouvelle situation comme d'une ivresse, et il s'entend à l'ivresse. C'est ainsi que l'Allemand est maintenant presque frivole en politique, si là aussi il a pour lui le préjugé de la profondeur et du sérieux, et s'il s'en sert en abondance dans ses rapports avec les autres puissances politiques, il est cependant secrètement plein de présomption pour avoir eu le droit de s'exalter une fois, d'être une fois fantasque et novateur, et de changer de personne, de parti et d'espérance comme de masque. Les savants allemands, qui semblaient être jusqu'à présent les plus allemands parmi les Allemands, étaient, et sont peut-être encore, aussi bons que les soldats allemands. À cause de leur penchant à obéir, profond et presque enfantin, dans toutes les choses extérieures, à cause de leur obligation d'être très isolés dans la science et de répondre de beaucoup de choses. S'ils savent se réserver leur attitude fière, simple et patiente, et leur indépendance des folies politiques, en des temps où le vent souffle autrement, on peut encore attendre d'eux de grandes choses. Tels qu'ils sont, ou tels qu'ils étaient, ils sont l'état embryonnaire, quelque chose de supérieur. L'avantage et le désavantage des Allemands, même chez leurs savants, c'est qu'ils se trouvaient jusqu'à présent plus près de la superstition et du besoin de croire que les autres peuples. Leurs vices sont, avant comme après, l'ivrognerie et le penchant au suicide. Ce dernier est un signe de lourdeur d'esprit qui se laisse facilement pousser à abandonner les rênes. Le danger pour eux se trouve dans tout ce qui lie les forces de la raison et déchaîne les passions. Comme par exemple, l'usage excessif de la musique et des boissons spiritueuses. Car la passion allemande se retourne contre ce qui lui est personnellement utile. Elle est destructive d'elle-même, comme celle de l'ivrogne. L'enthousiasme lui-même a moins de valeur en Allemagne qu'ailleurs car il est stérile. Si jamais un Allemand a fait quelque chose de grand, cela a été dans le danger, en état de bravoure, avec les dents serrées, l'esprit tendu, et souvent avec un penchant à la générosité. Il sera conseillé de se mettre en rapport suivi avec les Allemands, car chacun a quelque chose à donner si l'on sait le pousser à le trouver, à le retrouver, car il est foncièrement désordonné. Si un peuple de cette espèce s'occupe de morale, quelle sera la morale qui justement le satisfera ? Il voudra certainement avant tout que son penchant cordial à l'obéissance y paraisse idéalisé. Il faut que l'homme ait quelque chose à quoi il puisse obéir d'une façon absolue. C'est là un sentiment allemand, une déduction allemande. On la rencontre au fond de toutes les doctrines morales allemandes. Combien différente est l'impression que l'on ressent en face de toute la morale antique. Tous les penseurs grecs, quelle que soit la multiplicité sous laquelle nous apparaissent leurs images, semblent ressembler, en tant que moralistes, au maître de gymnastique qui apostrophe un jeune homme. « Viens, suis-moi, abandonne-toi à ma discipline. Tu arriveras peut-être alors à remporter un prix devant tous les Hélènes. » La distinction personnelle, c'est là la vertu antique. Se soumettre, obéir, publiquement ou en secret, c'est là la vertu allemande. Longtemps avant Kant et son impératif catégorique, Luther avait dit, guidé par le même sentiment, qu'il fallait qu'il y ait un être en qui l'homme puisse se confier d'une façon absolue. C'était là sa preuve de l'existence de Dieu. Il voulait, plus grossier et plus populaire que Kant, que l'on obéisse aveuglément, non à une idée mais à une personne. Et en fin de compte, Kant n'a pris son détour par la morale que pour en arriver à l'obéissance envers la personne. Car c'est là le culte de l'Allemand, quelle que soit la trace imperceptible de culte qui soit restée dans sa religion. Les Grecs et les Romains avaient d'autres sentiments et se seraient moqués d'un tel. Il faut qu'il y ait un être. Cela fait partie de leur liberté de sentiment toute méridionale de se défendre contre la confiance absolue, et de retenir dans le dernier repli de leur cœur un petit scepticisme contre tout et chacun, que ce soit Dieu ou homme ou idée. Le philosophe antique va plus loin encore. Nil Admirari. Dans ce mot, il voit toute philosophie. Et un Allemand, c'est-à-dire Schopenhauer, va jusqu'à dire au contraire « Admirari est philosophari ». Que sera-ce donc si l'Allemand, comme cela arrive parfois, en arrive à l'état d'esprit où il est capable de grandes choses? Si l'heure de l'exception arrive, l'heure de la désobéissance? Je ne crois pas que Schopenhauer dise avec raison que le seul avantage des Allemands sur les autres peuples, ce soit qu'il y ait parmi eux plus d'athées qu'ailleurs. Mais je sais une chose. Lorsque l'Allemand est placé dans la condition où il est capable de grandes choses, il s'élève chaque fois au-dessus de la morale. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Maintenant, il est dans le cas de faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire commander, à soi ou bien aux autres. Mais c'est le commander que sa morale allemande ne lui a pas appris. L'art de commander y a été oublié.